Le journal Loïc Barrière. Des dizaines de morts lors d'un séisme sur l'île de Java en Indonésie. Après un week-end marqué par des raids aériens lancés par la Turquie, le président Erdogan envisage une opération terrestre dans le nord de la Syrie. Une première rencontre entre les présidents Erdogan et Sisi lors du mondial au Qatar. Les deux pays veulent relancer leurs relations bilatérales. La fin du sommet de la francophonie à Djerba, notre envoyé spécial François-Xavier de Calonne a rencontré Ali Grigiche, spécialisé dans le tourisme alternatif, et Lamia Bakouche, qui s'occupe de jeunes en situation difficile à Medellin. Quelques jours après la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement français va réduire la durée d'indemnisation des nouveaux chômeurs. Enfin, deuxième jour du mondial au Qatar, la France joue son premier match mardi soir. En Indonésie, un séisme de magnitude 5,6 a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés sur l'île de Java. Le tremblement de terre a eu lieu près de la ville de Cianjur, à 100 km de Jakarta. Un séisme qui a été ressenti notamment dans la capitale. Recep Tayyip Erdogan envisage de lancer une opération terrestre en Syrie, une menace brandie par le président turc au lendemain d'une série de raids aériens contre des positions kurdes en Syrie et en Irak. Des tirs de roquettes ont également atteint la Turquie à partir du territoire syrien. Les raids aériens de l'armée turque ont fait une trentaine de morts dimanche en Syrie. Ils ont été décidés en représailles à l'attentat qui a tué 6 personnes le 13 novembre à Istanbul. La Turquie estime que ce territoire sert de base arrière aux terroristes. En marge du mondial au Qatar, Recep Tayyip Erdogan et Abdel Fattah el-Sissi ont échangé leur première poignée de main. C'était lors de la cérémonie d'ouverture. Les deux pays sont en froid depuis l'arrivée au pouvoir du président Sissi. Selon la présidence égyptienne, les deux dirigeants ont réaffirmé la profondeur des liens historiques entre leurs deux pays et leurs deux peuples, et ils ont décidé du début du développement des relations bilatérales. Un Palestinien a été tué et deux autres blessés dans un raid des forces israéliennes en Cisjordanie occupée. Cela s'est passé dans le secteur de Jénine. La fin dimanche du sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie, les acteurs du tourisme espèrent que cet événement que vous avez pu suivre lors de ce week-end sur Radio Orient aura un impact positif pour la saison touristique. À l'image d'Ali Grigiche, spécialisé dans le tourisme alternatif à Djerba, il répond à notre envoyé spécial François-Xavier de Calonne.
Je suis un acteur dans le tourisme alternatif à Djerba. Donc j'ai fait une excursion en Segway. C'est un tour culturel artistique à Ar-Riyad, c'est où ils ont créé l'événement Djerbaout. J'ai commencé ça en 2016. Donc lorsqu'on parle d'un circuit culturel artistique, je parle de la ville, je parle des artistes qu'ils ont créé pour chaque œuvre.
Vous l'avez démarré en 2016, il y a eu un coup d'arrêt avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, et là, vous sentez la reprise aujourd'hui ?
Oui, heureusement, cette saison, lorsqu'on parle de 2022, donc c'était bien beaucoup mieux que les années 2020 et 2021. Nous sommes contents pour ça et espérons qu'on aura une saison très intéressante pour la saison prochaine. Donc, on attend du sommet qu'elle nous fait une publicité. Ils nous font un relancement pour le tourisme en Tunisie.
Vous soulignez que la tenue de ce sommet de la francophonie à Djerba, c'est particulièrement important pour l'image de la Tunisie et donc pour le tourisme tunisien, sachant que le tourisme représente une large partie de l'économie tunisienne aujourd'hui.
Ça c'est sûr, donc c'est un secteur très important dans notre pays, c'est depuis longtemps réellement, donc une population active très importante travaille dans ce secteur, c'est pas que à Djerba, mais c'est à Djerba, Sousse, Monastir, Hammamet, donc Mahdia. Aussi on a une autre destination, c'est Barqa, c'est au nord de Tunisie, donc en attendant qu'on aura un relancement très important avec cette sommet.
Pour vous, la francophonie, qu'est-ce que cela représente ?
Pour nous, la francophonie, c'est notre deuxième langue en Tunisie, comme vous saviez, donc nous avons bien étudié cette langue dans toutes les parties quel que soit primaire, secondaire, universitaire. Donc, c'est une dialecte qui est entrée dans notre langage, donc tunisienne. On utilise beaucoup la langue française. Son impact, c'est ces questions lorsque on sent que nous sommes unis déjà, quel que soit. Lorsqu'on visite une pays francophone, c'est beaucoup plus facile pour nous qu'on visite une pays anglophone ou quel que soit d'une autre langue. C'est lorsqu'on parle de la tolérance, sérénité et paix aussi, il y a des gens qui habitent ici, des Français, des Canadiens, et tous les gens, ils utilisent la langue française. Donc c'est une des plus importantes langues utilisées dans notre pays.
Vous travaillez à Djerba, c'est un lieu en Tunisie connu pour sa diversité et son ouverture, et ça aussi c'est un élément important.
Oui, bien sûr. Lorsqu'on parle de Djerba de base, c'est un des exemples de tolérance, paix et sérénité, parce qu'ici à Djerba, on vit tous ensemble, les musulmans, les chrétiens et les juifs, ils vivent ensemble, donc on vit ensemble, on fait les fêtes ensemble, les nourritures, les fêtes, les Aïd. Donc nous avons grandi et habitué à ça, c'est ça qui est très important pour notre pays de base. Et en plus, Djerba spécifiquement.
Et c'est justement le sens de la francophonie, la diversité des cultures qui s'expriment à travers la même langue.
Exactement, oui. Lorsqu'on parle de la diversité des cultures, nous sommes tous des Tunisiens. Pour nous, c'est une diversité, oui.
Ali Grigiche, spécialisé dans le tourisme alternatif à Djerba. Un village de la francophonie s'est ouvert à l'occasion du sommet de Djerba. De nombreuses activités culturelles y sont proposées. L'inclusion est également mise en lumière. François-Xavier de Calonne a rencontré Lamia Bakouche, directrice du Centre de défense et d'intégration sociale à Médenine, dans le sud-est de la Tunisie.
Ce centre est créé en 2011. À Médnine, il assure la prévoyance et la réinsertion et la réintégration des enfants et des jeunes des défaillances scolaires qui ont des difficultés d'adaptation sociale et psychologique, aussi bien au milieu scolaire qu'au milieu familial, à travers une équipe technique polyvalente, multidisciplinaire, psychologues, travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, par la mise en place des ateliers. On travaille sur la motricité, la motivation et l'initiation à apprendre un métier, à apprendre des compétences de vie.
Et là, vous avez un stand au sommet de la francophonie, au village de la francophonie de Djerba.
On a un stand pour présenter des articles produits par nos enfants et nos jeunes de centre. Ce sont des enfants initiés à apprendre à bricoler. Si jamais ils auront l'occasion d'être bien entourés et bien encadrés, ils peuvent être des artistes.
Et justement, comment ces personnes sont encadrées ?
Ils sont encadrés par une équipe technique multidisciplinaire, des psychologues, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des formateurs. On a au sein du centre une formatrice styliste modélisme et un formateur en art plastique.
Et cela fait partie de la politique d'inclusion mise en place par le gouvernement tunisien.
Bien sûr, ça fait partie de la politique de l'État tunisien relative aux défenses sociales et l'inclusion des personnes et des catégories à risque.
Pourquoi c'est important pour vous d'être au sommet de la francophonie de Djerba ?
Pour valoriser nos activités, nos talents, les talents des enfants, c'est une occasion à ne pas rater. Ce sont des enfants qui appartiennent à des populations à risque. Le jour où on arrive à présenter ces articles, pour moi c'est un défi. C'est une occasion pour valoriser, de les encourager aussi.
Et justement, lorsque vous discutez avec ces personnes qui réalisent ces activités, qu'est-ce que ces personnes vous disent ?
Ils se sont changés. Les petits enfants ou les jeunes qui suivent les activités éducatives du centre, ils se sont changés. Même leur famille, lors des réunions d'évaluation avec leur famille, il y a un changement de comportement au niveau de communication avec les autres, au niveau des compétences de vie. Il y a un changement.
On le comprend, hein, parce que vous leur faites confiance à ces personnes-là.
Bien sûr. La confiance en soi-même, c'est très important pour évoluer.
Lamia Bakouche, directrice du Centre de défense et d'intégration sociale à Medellín. L'Espagne va rapatrier des femmes et des enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Le mois dernier, la France a rapatrié 15 femmes et 40 enfants, jusqu'alors détenus dans des camps syriens. En Algérie, l'arrestation du journaliste, poète et éditeur Lazari Lapter. Il a été interpellé dimanche par la police. Sa famille dit ne pas connaître les motifs de son interpellation. En France, c'est la conséquence de la loi votée la semaine dernière sur l'assurance chômage. La durée durant laquelle les nouveaux chômeurs seront indemnisés sera moins longue. Cette durée va baisser de 25% au 1er février. Une annonce du gouvernement dénoncée par les syndicats. À noter que seule la durée change, pas le montant de l'allocation chômage. Une réforme saluée par Feyza Bazini, conseillère municipale, déléguée du parti Horizon à Neuilly-sur-Seine. Elle est l'invitée de Pluriel ce soir à 19h et 23h.
C'est une réforme nécessaire, évidemment qu'on l'attendait, parce qu'au sein de la majorité présidentielle, on a toujours défendu la valeur du travail, le fait qu'il soit le mieux rémunéré possible, le fait d'encourager l'activité. Donc cette réforme est là pour but de justement de ne pas les maintenir trop éloignés du marché et de les inciter à chercher de manière plus active un autre emploi. Donc c'est évidemment, pour moi, c'est clairement vertueux de chercher de plein emploi. Et dans une économie de plein emploi, personne ne souffre de mois et de mois de chômage. Donc cette réforme, je la soutiens complètement. Et ça doit être justement l'objectif de plein emploi. C'est une grande cause à défendre absolument durant ce deuxième quinquennat du président de la République.
Alors, quelle politique publique souhaitez-vous mettre en place pour aider les jeunes à créer leur entreprise? Est-ce qu'il faut mettre en place des outils spécifiques pour aider notamment les jeunes des quartiers prioritaires, pour les inciter à entreprendre?
C'est une cause essentielle. D'ailleurs, là, vous touchez à un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors déjà, sur le plan local, moi, j'ai eu le plaisir de vrai en tant qu'administratrice au sein de la mission locale, donc qui s'occupe de l'insertion, l'emploi des jeunes de 15 à 25 ans, mais également sur le plan associatif, justement, en termes de mentorat, où on essaie d'accompagner, justement, nos jeunes dans la création d'entreprises. Pour moi, on a déjà agit de manière très forte et importante au niveau de l'apprentissage. Donc, clairement, l'objectif du président Emmanuel Macron, c'était d'atteindre, on a atteint plus d'un million d'apprentis, avec toutes les incitations qui ont été faites envers les entreprises, incitations fiscales. Il y a aussi des sujets, je dirais, plus en amont, donc au niveau de l'éducation, où il faut absolument peut-être améliorer cette phase de choix d'orientation, afin justement de ne pas encourager la reproduction sociale, mais pouvoir justement aider les lycéens, les collégiens dans leur cheminement, leur choix d'orientation. Il faut également une éducation économique et à l'entreprise plus forte dans le milieu scolaire. Et puis aider à l'entrepreneuriat, comme l'a constaté Emmanuel Macron, et je reprendrai ces mots. Il a dit, voilà, pour certains jeunes, il est plus facile de trouver des clients que de trouver un patron. Donc il faudrait inciter, aider ces projets d'entreprise à l'échelle des collèges et des lycées, créer un lien, des passerelles entre les entreprises et justement les lycées, favoriser des entrepreneurs locaux qui peuvent prendre la parole dans les établissements scolaires pour inspirer, pour créer une émulation. Et il faudrait aussi également réfléchir sur tout ce qui peut être barrière pour créer son entreprise. Donc je pense aux facteurs financiers, le fait d'obtenir le crédit, et puis également le numérique, où là pour le coup, on le voit, c'est une vraie barrière. Et en même temps, il y a tellement de possibilités justement pour favoriser l'apprentissage des nouvelles technologies. Et puis pour moi, ce qui est important, on en revient à l'échelon local, il y a des structures qui existent, il y a des associations qui existent. J'ai parlé de l'association que je préside, une initiative en scène avec des études de mentorat. Je soutiens d'ailleurs, on soutient au niveau de l'association, une association récente qui fait un travail fabuleux dans les quartiers difficiles, qui s'appelle Solidarité Startup. Et puis bientôt, nous allons envisager aussi peut-être un travail avec un autre établissement qui s'appelle Escalator à Levallois. Alors c'est très intéressant comme projet, parce que le but, c'est justement d'aider tous ceux qui n'ont pas pu bénéficier de l'ascenseur social. Donc c'est vraiment un sujet très très important, parce qu'il touche à notre économie, à notre jeunesse et à l'esprit d'entreprendre. Donc du coup, il faut vraiment s'engager sur cette question.
Faïza Bazini, conseillère municipale déléguée du parti Horizon à Neuilly-sur-Seine. Elle est l'invitée de Pluriel ce soir à 19h et 23h. Le mondial s'est donc ouvert dimanche au Qatar, après le match d'ouverture Qatar-Équateur remporté par l'Équateur. Les matchs au programme de ce lundi, Iran-Angleterre, Sénégal-Pays-Bas et USA-Pays de Galles. La France joue ce mardi face à l'Australie, sans Karim Benzema qui s'est blessé à l'entraînement. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce week-end était l'égyptologue Florence Quentin pour un essai publié aux éditions Perrin, l'Égypte ancienne, vérités et légendes, extrait de cette émission.
En dépit de l'avancée de nos connaissances sur l'Égypte ancienne et puis de nos démentis scientifiques, parce qu'on a de plus en plus de théories farfelues ou complotistes, eh bien les imaginaires ne faiblissent pas. Ils prendront avec autant de force que les savoirs. Et c'est une fascination qui est ancienne, qui remonte à l'Antiquité, au récit des Grecs, une fascination qui se réinvente à travers le temps. Et visiblement, elle n'est pas près de faiblir, comme en témoigne l'extraordinaire fréquentation des expositions sur les pharaons, les voyages dans la vallée du Nil ou l'engouement du public pour les documentaires sur le sujet. Et mon livre s'attache donc à répondre aux questions les plus fréquentes entre les vérités et les légendes. Et puis aussi, je voulais rectifier certaines idées reçues et aussi rendre hommage au génie des Égyptiens en débusquant quelques sujets qui étaient moins connus sur cette civilisation.
Alors, vous répondez à une question que beaucoup se posent, Florence Quentin. Comment ont été construites les pyramides qui nous impressionnent tant par leur perfection? Vous évoquez notamment l'utilisation de rampes pour monter les blocs de pierre.
Alors déjà, précisons que ces monuments ont été construits entre 2650 et 1500 avant notre ère, donc c'est assez un temps assez long. Et puis, on sait aujourd'hui qu'on transportait les blocs de pierre par voie terrestre, des carrières au chantier avec un allié de taille qui était le Nil. Et puis ensuite, on déterminait le nord pour orienter avec la plus grande précision possible les quatre faces de la pyramide par rapport aux points cardinaux. On dessinait le contour de la pyramide et puis il y avait ensuite des équipes, des chantiers de 20 000 à 30 000 hommes, plus ou moins spécialisés et qui montaient justement ces blocs grâce au limon pour les faire glisser sur des traîneaux de bois et donc sur des pentes. Et effectivement, on a fait une découverte fondamentale ces dernières années donc pour la compréhension de la construction de ces pyramides titanesques. C'est une équipe de l'IFAO, c'est-à-dire l'Institut français d'archéologie orientale, l'école française d'Iker, qui, sous la direction de Yanis Gourdon, dans le site de Hatnoub, c'est une carrière d'albâtre qui est exploitée dès le troisième millénaire, à peu près à 330 km du Caire. Et on a découvert un système de halage qui facilitait le déplacement de très gros blocs de pierre hors de cette carrière. Et on pensait jusque-là que les Égyptiens ne maîtrisaient pas les pentes très inclinées. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, on pensait à des pentes qui ne dépassaient pas 7%. Et on sait aujourd'hui, grâce à cette découverte de Hatnoub, qu'ils pouvaient tirer des blocs beaucoup plus lourds sur des pentes beaucoup plus raides, entre 18,5% et 22%. Ce qui peut nous expliquer en partie comment ces blocs ont pu être allés tirés sur des traîneaux qui étaient donc humidifiés par du limon sur ces pentes soit frontales, soit latérales pour construire ces pyramides.
L'égyptologue Florence Quentin, il publie « L'Égypte ancienne, vérités et légendes » aux éditions Perrin. Il était l'invité de la bibliothèque de Radio Orient, émission disponible sur radioorient.com. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.